Alors, qu'en est-il sur les pratiques énergétiques, sur les usages, qui étaient mon point d'entrée dans cette étude? Est-ce que ça amène à changer quelque chose du point de vue des pratiques énergétiques que d'utiliser des énergies renouvelables? Alors, comme je vous le disais, à l'échelle individuelle, cette modification des pratiques est très nette. Il y a réellement une sobriété dans les consommations, de par cette intermittence de l'énergie qui amène une valeur intrinsèque et symbolique de l'énergie. On se rend compte de ce que c'est que de consommer un kilowattheure et que de produire un kilowattheure. Et cette conscience de l'énergie mise en œuvre dans l'habitat vient bien sûr de cette proximité entre lieu de consommation et lieu de production. Alors à l'échelle collective, c'est un peu moins net. C'est un peu moins net pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un peu plus difficile à évaluer qu'à l'échelle d'un ménage, puisque les arbitrages des uns et des autres ne vont pas être les mêmes. Aussi, si d'un côté il y a eu une baisse des consommations énergétiques, de part aussi de l'efficacité des programmes d'efficacité mis en place, d'isolation, de remplacement des fenêtres, etc. D'un autre côté, ces communes ne sont pas hors de la société de consommation, qui, comme c'était bien rappelé ce matin, nous amène à consommer toujours davantage d'énergie. Donc si on regarde les consommations globales avant et après les projets énergétiques, on n'a pas forcément des diminutions spectaculaires, et des fois on a des totaux identiques ou supérieurs. Donc à la juste lecture des chiffres globaux, c'est pas parlant. Un deuxième élément est qu'à l'échelle collective, il y a finalement une normalisation des pratiques dans le dimensionnement des techniques. C'est-à-dire, ce qu'on se permet à l'échelle individuelle, on se le permet beaucoup moins à l'échelle collective, et ce d'autant plus que ces projets étaient des projets pionniers. Il fallait montrer que ça marche. Donc il ne s'agissait certainement pas que la centrale de méthanisation tombe en panne, que personne n'ait de chauffage l'hiver, et que ce soit le projet décrié dans les journaux. Donc de ce fait, il y a une tendance au surdimensionnement des techniques. Et dans une commune comme celle de Yunde, eh bien, on a une centrale de méthanisation pour le chauffage et l'électricité, auquel on a ajouté une chaufferie bois au cas où vraiment l'hiver était froid, et auquel on a quand même acheté au dernier moment une chaudière fuel, parce qu'on ne sait jamais, si les deux autres venaient à lâcher, il faudrait bien qu'on ait quelque chose l'hiver. Bon, au final, la chaudière fuel n'a jamais été allumée, la chaufferie bois sert pour les points de chaleur, mais vous voyez que ce surdimensionnement ne s'observe pas du tout à l'échelle domestique, où le coût des techniques fait qu'on minimise quand même plutôt les techniques. On va plutôt prendre une éolienne d'un kilowattheure de moins, ou un panneau solaire d'un kilowattheure de moins que de plus, pour minimiser le coût, et on se dit, la panne, on verra bien. Donc, de ce fait-là, la collectivisation amène une certaine normalisation des choix techniques et, de fait, des pratiques. Enfin, le fait d'être accordé de manière directe ou indirecte a une influence également sur la consommation, notamment dans les représentations. C'est-à-dire que techniquement, ça ne change pas grand-chose. Ce que j'entends par un raccordement direct ou indirect, c'est le fait, par exemple, pour une installation électrique, de revendre directement ou non son électricité. C'est-à-dire que toute l'électricité produite repart, entre guillemets, dans le réseau et qu'on rachète au réseau toute son électricité, ou qu'on fasse d'abord transiter cette électricité par les maisons et qu'on vende que le surplus. Je vous dis ça très théoriquement, puisque dans les faits, les physiciens d'ailleurs se demandent même si l'énergie bouge, donc, enfin l'électricité bouge dans les tuyaux. Donc cette représentation du fait qu'elle transite ou non par la maison est là encore qu'une représentation. Mais de fait, elle est partagée, et pour les habitants, s'ils revendent toute leur électricité ou s'ils autoconsomment une partie de leur électricité et revendent que le surplus, c'est totalement différent dans les pratiques. Il y a vraiment cette représentation que l'énergie part, dans le premier cas, et dans le deuxième cas, qu'ils ont une autoconsommation, et que dès lors, on y fait plus attention à cette énergie, on ne la consomme pas de la même manière. Donc ce qui est récurrent dans ce terrain et à cette échelle collective, c'est que si quantitativement l'impact est moins fort, du point de vue des représentations de l'énergie, il y a bien une modification dans l'autonomie énergétique. L'énergie devient une préoccupation. Je vous ai encore mis quelques extraits d'entretien où les acteurs nous disent on est plus sensible à l'énergie maintenant même. On est plus sensible à la production, à la consommation d'énergie, même si on y a déjà toujours pensé. Mais maintenant, on sait combien elle est difficile à produire, cette énergie, combien elle est chère aussi. Alors, chère, pas en termes de coût, parce qu'elle est en l'occurrence moins chère que celle du réseau préalablement utilisé, mais chère dans sa difficulté de production est mise en œuvre et on garde un œil dessus, nous dit cette, dans le deuxième extrait d'entretien, cette agricultrice. Elle dit, bon, voilà, un soir sur deux, voire chaque soir, je jette un œil sur le composteur de l'installation photovoltaïque et je regarde qu'est-ce qu'elle a produit aujourd'hui. Quand je passe près de la montagne, ils sont juste à côté d'une éolienne citoyenne qui a été mise de manière collective, dont ils font partie, elle nous dit, ben, j'écoute si elle vrombit, si elle marche, si elle produit bien, et on a déjà un instinct pour ça maintenant. Si le soleil brille faiblement, eh bien, la production est limitée, et si c'était une belle journée, alors on sait, oh, ben, c'était super, etc. Donc, vous voyez bien que cette attention de l'énergie devient une préoccupation, elle entre dans le quotidien, et il me semble que c'est bien en ça que le système technique a bien un rôle dans nos usages énergétiques, en ce sens que produire des voiles, comme le défunt Heidegger, qu'il fait effectivement passer de l'état caché à non caché, et ce, par cette perception sensorielle dont je vous parlais, de l'énergie, elle est visuelle, elle est sensible, et une certaine compréhension par l'acte, je dirais, demander à n'importe qui, moi la première, quelle est sa consommation en énergie de chauffage en kilowattheure. Je pense que vous verrez que peu de gens ont la réponse à cette question, de vous dire exactement combien de kilowattheures ils consomment par an pour leur chauffage. Demandez à un utilisateur de bois combien de stères ils consomment par an, il vous le dira tout de suite. Bien, on voit bien là, par cette matérialité de l'acte, que de décharger le bois, de la livraison au garage et ensuite à sa chaudière ou à son poêle à bois, une matérialité qui fait sens et donc qui rend cette énergie beaucoup plus réelle, beaucoup plus concrète. Néanmoins, c'est un travail, et les utilisateurs de bois ne vous diront pas le contraire. Se chauffer au bois, c'est du travail. Et c'est dire que ces énergies renouvelables, certes, ramènent une attention à l'énergie, mais un style de la contrainte. Alors là, sont encore deux extraits d'entretien d'un agriculteur, ce qui n'est pas anodin, parce que la notion de travail a une dimension très particulière dans le monde agricole. Et cette première agricultrice nous dit, voilà, les panneaux photovoltaïques, ça marche tout seul, alors que pour l'installation de méthanisation, ben, nous devons planter, nous devons récolter, nous devons travailler, et c'est beaucoup de travail. Pour ce qui est du bois, là, le deuxième extrait fait référence à un agriculteur autrichien qui nous dit, quand je pense au nombre d'heures qu'il faut au bois pour se retrouver dans la maison à compter du poêle, ça revient très cher. Bien que le bois ne coûte rien, puisqu'il a lui-même de la forêt, donc c'est sa forêt privée, mais il y a un moment ou un autre, voilà, ça crève, un arbre, il faut de toute manière l'enlever de là, donc je dois le couper, le débiter un mètre, puis le fendre, puis recouper à 50 cm, puis le mettre à la réserve, puis de la réserve à la maison, etc. Et c'est énormément de travail. Donc, cette dimension du travail, alors, on verra peut-être pas très bien, mais les promoteurs de l'électricité, ça rebouclera avec la présentation d'Alain de ce matin, ne s'y étaient pas trompés, puisque ça, c'est une pub de 1930, où on met bien en lumière ce travail que nécessite l'énergie et les tasses de domestique sans l'électricité, sans le réseau, et le confort qu'apporte le réseau électrique et l'électricité pour réaliser ces mêmes tâches de lavage, de chauffage, de nettoyage. Et c'est ce qui, je pense, peut être un frein majeur à l'adoption des énergies renouvelables. C'est justement cette contrainte qu'elle pose et qu'il n'est pas sûr qu'on soit prête à accepter. Alors dès lors, est-ce qu'on doit voir par là un déterminisme du réseau? C'est-à-dire que mon propos était, vous l'aurez compris, vraiment d'argumenter pour le rôle du système technique dans les usages énergétiques et son importance. Néanmoins, bien sûr, il y a des disparités sur le réseau. Donc, si on peut remettre en cause ce déterminisme du réseau, ce serait donc, disons, voilà, un Américain consomme deux fois plus d'énergie qu'un Français pour un système technique à peu près équivalent. Donc, on ne peut pas voir là un rôle du réseau. Mon propos serait plutôt de dire qu'il y a indiscutablement un rôle du système technique dans les usages énergétiques, mais que bien sûr, ce n'est pas le seul. Et que si le système technique utilisé a un rôle majeur dans les représentations que l'on va avoir de l'énergie et donc dans nos pratiques, il y a aussi des normes sociales, des représentations du confort, de la propreté qui jouent une influence certaine. Alors c'est aujourd'hui le projet sur lequel je travaille, qui est d'interroger justement ces normes sociales, donc au sein de ce projet Energize, qui est un projet européen H2020, et qui questionne justement cette dimension des normes sociales dans les pratiques énergétiques, partant du postulat que finalement ces pratiques individuelles, observables, qui sont la cible de toutes les initiatives souvent énergétiques à l'adresse des ménages, ne sont que la pointe de l'iceberg, en fait la partie observable de ces pratiques énergétiques, et puis que le gros de l'iceberg, la partie cachée, la dimension cachée, ce sont ces normes sociales, ces valeurs, ces représentations qui conditionnent ces pratiques et cette dimension matérielle de l'infrastructure socio-technique. Donc, quelle culture de l'énergie varie à travers les différents pays européens, c'est un des questionnements de ce projet, avec cette idée de dépasser l'action individuelle, c'est-à-dire de justement montrer que l'individu et la surindividualisation, la surresponsabilisation individuelle des enjeux écologiques, que finalement ça repose sur l'individu, le réchauffement climatique et les dommages environnementaux, eh bien, le postulat de fond de ce projet, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu plus compliqué, qu'il y a des normes sociales collectives qui gèrent ces pratiques. Donc, par exemple, en termes de lavage, qu'est-ce qui fait qu'on va mettre le même jean 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 4 semaines? À quoi ça tient? Ça, certes, des représentations de la propreté et de la saleté, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des contraintes socio-professionnelles? Une profession comme une profession technique, par exemple, pour de nombreux techniciens, il est tout à fait possible de mettre le même bleu de travail 1 voire 2 semaines consécutives. Pour un commercial, je pense que s'il vient 2 semaines de suite avec la même chemise, à mon avis, c'est un motif de licenciement. Donc on voit bien qu'à travers ça, ces pratiques de lavage qui ont un impact énergétique certain n'ont peu ou prou rien à voir avec l'énergie, rien à voir avec la représentation qu'on a de l'énergie, mais d'autres représentations et normes sociales qui les conditionnent. Et donc, l'objet de ce projet est justement d'interroger ces normes-là, donc voilà, à travers 8 pays, et donc d'essayer de comparer aussi dans quelle mesure ça varie d'un pays à l'autre, ces cultures techniques. Donc, pour conclure, mon propos était de mettre en avant cette dimension quasi abstraite, ce fait que l'énergie soit une consommation avant la consommation, mais qu'elle se passe bien cette abstraction par un système socio-technique. On se l'approprie normalement par un système socio-technique qui a un impact sur les pratiques énergétiques et que tout n'est pas égal par ailleurs. Les consommations énergétiques ne vont pas être les mêmes sur un grand réseau centralisé où tout est voilé et sur un micro-système technique où on a une perception locale et visuelle de la production d'énergie. Et que dès lors, ces choix sociaux, que sont les choix énergétiques, ont bien une incidence sur la société. Et pour conclure, et faire le lien avec la discussion qui avait émergé ce matin, il me semble que cette image du réseau comme solidarité doit être questionnée, si ce n'est remise en cause, mais tout du moins discutée, puisqu'effectivement, si on peut voir le réseau comme un objet d'équité et de solidarité, il y a aussi une tyrannie du réseau que mettait bien en lumière ce matin Alain Grain, et une dépendance totale de l'usager sur le réseau, où parfois une autre manière de faire est totalement impossible quand on a un immeuble électrique avec aucune autre manière de pouvoir produire de l'énergie. Donc ça pose des questions de précarité énergétique en France en tout cas, mais qui montrent bien que voilà, y a une tyrannie du réseau. Alors cette solidarité, par le manque d'équité et d'égalité sur le réseau, est tout à fait questionnable. Inversement, ces projets d'autonomie énergétique montrent qu'il peut y avoir de la solidarité dans l'autonomie, que cette autonomie peut être collective, peut être concertée, une coopération, et qui dès lors modère cette image-là de l'autonomie qui serait celle de chacun de livrer pour soi et, versus le réseau solidaire et équitable. Il me semble que ce que montrent ces projets locaux est une image à modérer ces réseaux comme solidarité, ce qui peut être discutable, mais justement je laisse la discussion là-dessus.